Il est 11h30, Infomag avec Jean-François Baudin.
Accompagner les personnes en situation de handicap dans leur parcours de réinsertion professionnelle, c'est le but de l'association Envie. Sonia Baquet s'est rendue sur place ce matin. 6000 convives à Lifou, c'est aujourd'hui le mariage du futur grand chef du district de l'Ossi. Quatrième jour de guerre entre Israël et l'Iran, Benjamin Netanyahou estime que tuer l'ayatollah Khamenei mettra un terme au conflit. Conflit dont nous avons parlé ce matin avec le politologue Frédéric Ancel, qui était notre invité du matin. Changement surprise à la tête de Renault, Luca De Meo annonce qu'il rejoint le groupe de luxe Kering en grande difficulté. Et puis le sport, on a frôlé la catastrophe sur la Groupama Race. Le leader australien Rush Hour a chaviré cette nuit, mais heureusement les 6 membres d'équipage sont tous sains et saufs. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal qui se poursuivra avec le magazine Citoyen. Bonjour Nicolas Legrand.
Bonjour Jean-François Baudin.
Il y sera question cette semaine des dangers à la surexposition des écrans pour les jeunes.
Et oui, ils sont partout, tablettes, TV, ordinateurs, téléphones, jeux vidéo. Il peut vite y avoir une surconsommation et les contenus sont parfois inadaptés, notamment pour les apprentissages. Alors y a-t-il un danger, un impact sur le comportement des enfants? Doit-il y avoir un âge légal minimum pour les utiliser? C'est ce que nous verrons dans ce magazine Citoyen. Nous recevrons pour en parler Sylvain Hon, le président de la Fédération calédonienne des parents d'élèves, Fabienne Kadoka, qui est trésorière du SFA-CGC, Karine Tricot, qui est orthophoniste pour la province sud, et Emmanuel Rivet, qui est psychologue et responsable du programme Prévention des addictions à l'Agence sanitaire et sociale de Nouvelle-Calédonie. Les dangers de la surexposition aux écrans, c'est à retrouver dans le magazine Citoyen juste après votre journal.
On souhaite remettre de l'humain derrière les aides financières. La présidente de la province sud, Sonia Baquet, a rencontré ce matin les membres de l'entreprise Envie. Depuis 2021, cette structure accompagne les personnes en situation de handicap dans leur réinsertion professionnelle, Charlotte Coulson.
Faire un minimum avec un minimum de compétences et un maximum de motivation. C'est le leitmotiv de cette entreprise qui accompagne aujourd'hui une dizaine de personnes en situation de handicap. Elle propose un contrat de 8 mois, 7 mois en atelier à travailler la maçonnerie, la couture ou même l'informatique, et puis un mois en pré-emploi. Le dispositif porte ses fruits. Avant 2024, la société enregistrait un taux d'insertion supérieur à 65%, un taux qui a chuté l'année dernière. Mais l'accompagnement des collectivités, le gouvernement et la province sud est resté constant. Aujourd'hui, la présidente de la province, Sonia Baquet, a souhaité rencontrer le personnel et les personnes accompagnées pour remettre de l'humain derrière ces aides.
Ça fait partie des entreprises sociales et solidaires qu'on aide énormément, et c'est important de voir à quoi ça sert et comment ça fonctionne. Ça humanise également la manière dont on accompagne ces entreprises. Ça permet de voir tout le travail qui est fait en matière d'insertion, c'est-à-dire que là, on a des gens qui arrivent loin de l'emploi et qu'on arrive à rendre employable dans la situation dans laquelle on est, c'est quand même pas simple. Donc voilà, c'est simplement voir comment ça fonctionne. Ça met de l'humain sur des aides financières.
Et un soutien des collectivités est donc indispensable pour le fonctionnement de la structure, comme l'explique la directrice de Envie, Rebecca Frolaminiana.
C'est important pour l'équipe, puisque depuis 2024, on a vécu tellement de moments compliqués. La province sud a maintenu en fait tous les financements pour les contrats d'insertion. Et ça, c'est primordial. Autrement, on n'aurait pas pu continuer l'activité, tout simplement. L'an dernier, on a fini l'année avec un bilan négatif de moins de 10 millions. Donc, c'est très compliqué. C'était très compliqué. Heureusement, la province sud et le gouvernement qui ont renouvelé en fait leur confiance pour financer les contrats d'insertion. Et on a aussi obtenu le marché de démantèlement des compteurs électriques EEC. Donc nous, ça nous a permis de maintenir la tête hors de l'eau. Et cette année 2025, on sent qu'il y a de nouveau des marchés qui s'ouvrent, des demandes de commandes personnalisées. Donc on a espoir que notre structure continue à vivre, en fait.
Et parmi les personnes avec lesquelles Sonia Baquet a pu échanger ce matin, Soane Kafika est là. Il a 47 ans et travaillait dans le BTP avant son accident de travail.
J'ai eu un accident de travail en l'an 2006. C'est compliqué pour moi, franchement, parce que je ne pourrais plus le métier que j'ai aimé depuis mes études. Du jour au lendemain, il faut changer. C'est dur, mentalement et physiquement. J'ai resté pendant 14 ans sans travailler. Et c'est en allant vers une assistance sociale qui m'a remotivé au niveau de ma reconnaissance du travail d'handicap. Et puis voilà, je suis eu un entretien ici à Envie et ils m'ont choisi. Il y a une conseillère qui nous accompagne, un peu plus de connaissances au niveau informatique. Et c'est ça qui m'a permis un peu d'évoluer un peu dans ce domaine-là. C'est grâce à ça que j'ai pu obtenir et arriver à cet stade-là pour pouvoir avoir un stage au sein des entreprises que j'ai mené mes enquêtes métiers. Je sais très bien que ça peut aider beaucoup de personnes dans ma situation ou qui sont nées en tant que handicap, mais qui ne sait pas où aller.
Et pour les personnes qui souhaitent bénéficier des accompagnements de la structure, elles peuvent se rapprocher de la direction de l'emploi et du logement à la province sud.
L'appel du 18 juin, commémoré ce matin à Païta, un appel lancé il y a 85 ans, le 18 juin 1940, par le général de Gaulle, sur les ondes de la BBC à Londres, Léo Fichou.
Une cérémonie organisée comme souvent à Païta la veille de la date d'anniversaire. Sur le rang protocolaire, on retrouvait notamment la maire de la commune, Marilyn d'Arcangelo, Catherine Merckx, commissaire déléguée de la République en province sud, mais aussi le lieutenant-colonel Alexis Marolles et des représentants des anciens combattants, notamment Michel Mourguet, délégué de la France libre en Nouvelle-Calédonie. Marilyn d'Arcangelo, après avoir lu une partie de l'appel du général de Gaulle, a rappelé l'importance de la transmission aux nouvelles générations.
La transmission de la mémoire, c'est important aux jeunes générations. Il ne faut pas l'oublier parce que cet appel du général de Gaulle résonne encore dans nos mémoires comme une leçon de courage. Transmission de fidélité aux valeurs de la République, hein, la dignité humaine, la liberté. Donc oui, c'est important et quels que soient les élus, on se doit de transmettre l'histoire aux jeunes générations.
Cette année, le 18 juin tombe en pleine période de vacances scolaires. Il y avait donc moins de jeunes que les années précédentes, pas d'élèves de classe de défense. Mais malgré tout, les jeunes sapeurs-pompiers de Païta étaient présents.
Je m'appelle Noah et j'ai 16 ans.
Je m'appelle Nolwenn et j'ai 16 ans aussi.
Alors oui, pour moi c'est important d'être là parce que c'est un hommage, donc c'est important. Et du coup on s'est mis en place et on a attendu le début de la cérémonie.
Oui, c'est important, on peut dire qu'on est là aussi, les JSP, et pour représenter aussi les pompiers de Païta. Et moi, j'ai fait le dépôt de gerbes ce matin, donc voilà, c'était bien.
Demain, d'autres cérémonies seront organisées sur le territoire, notamment à Nouméa à 8h30 à la Croix de Lorraine.
Radio Rythme Bleu, 11h37.
L'IFOU vit au rythme du mariage du futur grand chef du district de Lossy. 37 ans après le mariage du grand chef Evanès Boula, c'est aujourd'hui celui de son fils aîné, Jonathan, qui est célébré dans le sud de l'île. Près de 6000 convives, dont une délégation wallisienne et fidjienne de plus de 80 personnes, sont sur l'île. Après les derniers gestes coutumiers hier, c'est donc aujourd'hui le mariage civil et religieux qui se déroule dans la tribu de Mou. Hier, la cérémonie coutumière a clôturé 2 mois de coutume rythmée par l'accueil des clans affiliés de la chefferie, puis par l'entrée des oncles utérins du fils du grand chef de Lossy. Écoutez le sénateur de l'RGO, Ludovic Boula. Il est également l'un des petits frères du marié.
Ça fait déjà 2 mois que les clans sont venus présenter leur participation et leurs gestes. Et à partir du premier mois et le deuxième mois, il y a eu les autres pays, les autres chefferies. C'est festif et ça permet aussi, là je parle avec le vécu de tout le long de cette période, où ça permet aussi de revoir qui nous sommes, quel est notre clan, nos chemins coutumiers. Ça permet aussi de régler des problèmes au sein de la famille. Et c'est grandiose parce qu'on le vit ça, là je le dis, c'est le dernier mariage, c'était en 88, c'est il y a 37 ans. Voilà, on le vit une fois dans notre vie. Ça permet de ressouder tout le monde. Et aussi pour les deux autres chefferies, Gaïcha et Wetch.
La majorité des personnes présentes sont vêtues de jaune et de blanc, les couleurs du district. Ils ont accompagné Jonathan Boula, le futur grand chef, et sa femme Honorine Nasson de la tribu de Lwengoni.
Le mariage coutumé, tant qu'il est coutumé, c'est déjà terminé. Et là, c'est religieux et administratif. La délégation wallisienne, c'est nos oncles maternels. Plus de 80 personnes qui sont venues, qui est très important dans la coutume kanak, où on ne peut pas faire ces protocoles-là, comme voilà, le cycle de la vie, c'est naissance, mariage et deuil. Les oncles maternels, ils sont très très importants. Et je dirais même plus importants que la famille de la mariée. Du coup, l'organisation de l'OSI, il y a un protocole de sécurité en concertation avec la province des îles et la mairie et l'État. L'alcool est interdit. Le protocole vestimentaire, les femmes sont popinées. Et pas de capuche, il y a tout un protocole sécurité, et voilà.
Ce mariage civil et religieux se déroule en présence de Jacques Billon, le haut-commissaire, d'une délégation du Sénat coutumier, des représentants du gouvernement, du Congrès, du président de la province des îles ou encore du maire de l'IFOU, Nekone Peoun, ainsi que la consul générale d'Australie, Annelise Young.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est l'heure de votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu avec d'abord la réponse à notre question d'hier. 97% des auditeurs de Radio Rythme Bleu qui se sont exprimés par SMS disent avoir été choqués par la remise en liberté de Christian Théin. Ils ne sont que 3% à dire que cela ne les choque pas. Voici notre question du jour. Les États-Unis doivent-ils, selon vous, s'engager militairement dans la guerre contre l'Iran? Si vous pensez que oui, vous tapez 1. Si vous pensez que non, vous tapez 2. Et vous envoyez votre réponse au 3146. Nous reviendrons dans un instant sur cette guerre entre Israël et l'Iran. Mais avant cela, l'actualité dans la région. Le Premier ministre néo-zélandais entame une visite de 3 jours en Chine. C'est la première fois que Chris Laxon se rend en Chine depuis son accession au pouvoir à Wellington en novembre 2023. Jean-Pierre Zajac.
Chris Laxon a déclaré avant son départ que durant son voyage de 3 jours à Shanghai et Pékin, il va s'engager à poursuivre une politique réfléchie dans un contexte mondial agité. C'est une période assez instable, a-t-il admis, et il est donc important, du point de vue de la Nouvelle-Zélande, que nous naviguions dans des eaux manifestement agitées pour parvenir à une situation qui nous est favorable. Chris Luxon, qui est accompagné d'une délégation de 28 chefs d'entreprise, va surtout mettre son voyage à profit pour rencontrer le président chinois Xi Jinping et son premier ministre Li Qiang. À Sydney, Jean-Pierre Zajac, RRB.
Il est 11h42, la première pause de ce journal, et ensuite on développe une page consacrée à la guerre entre Israël et l'Iran.
Toute l'info en 3 lettres, RRB.
Pendant les vacances, Bureau Vallée pense à vous. Les rayons Beaux-Arts, Loisirs Créatifs et Librairies sont à moins 20%. Rendez-vous dans votre magasin Bureau Vallée Magenta, ouvert en continu de 8h à 18h du lundi au samedi.
Bureau Vallée, on met la barre très haut et les prix très bas.
Offre valable du 7 au 21 juin 2025.
Des conseils concernant les placements, l'épargne, les SCPI ou encore la retraite? Caplif, votre expert calédonien en gestion de patrimoine, vous accompagne avec des solutions personnalisées. Caplif, depuis 35 ans à vos côtés. Et ce n'est que le début. Contactez Caplif au 28 30 00. RIAS 170 052, ORIAS 13103.
RRB, 11h, 13h, Infomag, Jean-François Bodin.
L'actualité à l'étranger avec le 4e jour de conflit entre Israël et l'Iran. Le territoire israélien est toujours visé par des missiles iraniens. Et si une nouvelle fois le bouclier antimissile israélien intercepte les projectiles, certains atteignent leur cible. On dénombrerait à l'heure actuelle 24 morts en Israël et un peu plus de 200 en Iran. Israël aussi bombarde le territoire iranien, notamment la capitale, Téhéran. Tzahal a frappé entre autres la télévision d'État. Une grande partie des habitants de Téhéran essaieraient de quitter leur domicile pour se mettre à l'abri. Après avoir visé les sites nucléaires, Israël s'en prend donc au régime des Mollahs. Tuer l'ayatollah Khamenei mettra un terme au conflit, a même déclaré le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou.
Cela n'aggraverait pas le conflit, mais y mettrait fin. Nous avons subi un demi-siècle de conflit propagé par ce régime qui terrorise tous les habitants du Moyen-Orient, répand le terrorisme, la subversion et le sabotage partout. La guerre sans fin est ce que l'Iran désire et il nous mène au bord de la guerre nucléaire. En réalité, ce que fait Israël permet de prévenir cela en mettant fin à cette agression. Je crois qu'après notre action, nous serons en mesure d'amener le Moyen-Orient à des sommets que personne n'a même imaginé. Cela sera possible si nous supprimons la capacité iranienne de menacer tout le monde, non seulement nous avec notre existence, mais aussi les régimes et nos voisins arabes et tous les autres. Ceci apportera la paix que nous espérons tous.
Une guerre dont nous avons parlé avec le géopolitologue Frédéric Ancel, qui est un spécialiste du Proche-Orient. Pour lui, il s'agit bien d'une véritable guerre entre Israël et l'Iran parce que le régime israélien a décidé d'en finir avec le régime de Téhéran, considéré comme une menace existentielle. Nous lui avons demandé quelle est la capacité militaire de l'Iran et combien de temps elle va pouvoir tenir.
À ce rythme-là, c'est 10 jours. C'est 10-15 jours, pas plus, puisque l'Iran ne dispose en réalité que d'une force balistique. Alors le problème de la balistique, c'est que votre missile, il sert une fois. Et puis pour en fabriquer un autre, ça prend beaucoup de temps. Le chasseur-bombardier, surtout lorsqu'il est dernier cri et piloté par les meilleurs pilotes du monde, ils peuvent servir des dizaines, voire des centaines de fois. Et donc de ce point de vue-là, au sens strictement militaire du terme, l'Iran ne peut pas l'emporter, ne peut pas gagner cet affrontement. Au sens, encore une fois, strictement militaire. Après, politiquement, on verra bien ce qui se passera. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est celle qui concerne les autres capacités de nuisance, en quelque sorte, de la République islamique d'Iran. Écoutez, c'est pas nouveau, ce sera le terrorisme. Ça, après tout, dès 79, on l'a vu à l'œuvre. Et pas seulement, d'ailleurs, sur des cibles israéliennes. a peut-être des cibles juives non israéliennes. On se souvient de l'Argentine en 1994. Et ça peut être des cibles occidentales de manière générale.
Autre interrogation dans cette guerre israélo-iranienne. Pourquoi le Hezbollah n'a-t-il pas bougé et n'a-t-il même pas réagi?
Il a été écrasé en octobre-novembre, en dépit des redemontades toutes plus grotesques les unes que les autres de feu son chef Nasrallah, qui rappelle d'ailleurs les redemontades tout aussi ridicules des chefs iraniens actuels. Il a été écrasé. Alors attention, ça ne signifie pas qu'il ne lui reste rien. Mais ce qu'il reste en capacité de nuisance du Hezbollah, il les conserve, ses forces, pour tenir son ultime bastion de Beyrouth Sud. Parce que, au fond, c'est là qu'il est né, c'est là qu'il a prospéré, et c'est là qu'il trouve, j'allais dire, sa raison d'être au cœur de la territorialité chiite libanaise. Et à l'origine, il faisait surtout du social. Donc, en fait, il est revenu à son ethos originel, en quelque sorte, et à son étiage militaire originel. Alors, si les Israéliens décidaient de rentrer à Beyrouth, mais il est bien évident que là, le Hezbollah redéploierait ce qui lui reste de force, mais il serait redoutable. Mais il n'est plus redoutable aujourd'hui pour frapper Israël. Et ce qui est terrible pour Téhéran, c'est que le régime des Mollahs avait joué énormément en investissant des dizaines de milliards de dollars que la République n'avait pas en réalité. Et d'ailleurs, la population iranienne était exaspérée de ce soutien de Téhéran au Hezbollah lointain. Et c'était une assurance-vie, une garantie qu'Israël n'attaquerait pas l'Iran, sans quoi il serait menacé par le Nord. Or, le Hezbollah avait fait l'erreur insigne le 8 octobre, donc après le massacre du Hamas du 7 octobre 2023, non pas d'attaquer massivement Israël, mais de rester sous un seuil, croyait-il, d'exaspération des Israéliens dans le cadre d'une espèce de guéguerre, bon, de basse intensité.
Et pour Frédéric Ancel, il est clair que le 7 octobre 2023 a tout changé.
Le paradigme a changé lors du pogrom du 7 octobre. Les Israéliens, aujourd'hui, l'armée israélienne, le gouvernement israélien sont extrêmement dangereux pour pour leurs ennemis, en tout cas à autoproclamer. Et c'est vrai parce que le pogrom du 7 octobre, et aujourd'hui, je pense que Téhéran, il lui en cuit et le régime en prend pour son grade, d'avoir sous-estimé en quelque sorte le choc du 7 octobre et la volonté de faire en sorte que ça ne se produise plus.
Frédéric Ancel vient de publier chez Odile Jacob un ouvrage intitulé « La guerre mondiale n'aura pas lieu » avec en sous-titre « Les raisons d'espérer ». Il lui a été demandé si cette guerre entre Israël et l'Iran ne risquait pas de déboucher sur un embrasement global ou un conflit mondial.
Mais non seulement je n'y crois pas, mais on a concrètement affaire à un conflit localisé. C'est pas parce qu'on en parle ourbi et torbi dans le monde entier, même phénomène pour l'Ukraine, c'est pas parce qu'on en parle dans le monde entier que c'est un conflit qui risque de dégénérer. Je vais tenter de vous convaincre avec un seul paramètre, mais qui est tout à fait fondamental. Il n'y a pas d'alliés militaires à l'Iran. Beaucoup trop de vos confrères ces dernières années galvaudent les termes, ce que vous ne faites pas, ou les confondent, notamment des termes très importants, tout à l'heure je parlais de la guerre, mais le fameux terme d'alliance. Il n'y a pas d'alliance militaire entre l'Iran et un autre État. Il n'y en a pas, il n'y en a jamais eu. C'est vrai avec Moscou, c'est encore plus vrai avec Pékin. Quant aux États arabes de la région, vous imaginez à quel point, en dépit de leurs regrets hypocrites et de leurs condamnations hypocrites, ils sont extrêmement heureux qu'Israël fasse le sale boulot. Donc en réalité, il n'y a pas de possibilité pour l'Iran d'engager d'autres puissances façon syndrome été 14. Mais entre parenthèses, et je conclue, c'est vrai aussi pour Israël. On l'a dit, bien sûr que les États-Unis vont continuer à fournir des munitions et des matériels, mais certainement pas à intervenir directement. Par conséquent, ça restera un conflit localisé, comme le conflit russo-ukrainien est aussi un conflit localisé.
Une interview du géopolitologue Frédéric Ancel que vous pouvez réécouter en podcast sur notre site internet. Et ce conflit entre Israël et l'Iran s'est invité au 55e salon aéronautique du Bourget. La France a fait en effet fermer le pavillon israélien. Le Premier ministre François Bayrou s'en est expliqué.
La position du gouvernement français était très simple. Pas d'armement de guerre offensif sur le salon. Étant donné la situation dans la région, on a provisoirement, j'espère, fermé les stands.
Des explications qui n'ont pas convaincu le président israélien Isaac Herzog. Il était l'invité de nos confrères de LCI.
Nous étions choqués de voir ce matin que les pavillons israéliens étaient verrouillés pour qu'il n'y ait pas d'accès. Les entreprises israéliennes ont signé des contrats avec les organisateurs du Bourget. Ils ont payé pour être présents. C'est comme créer un ghetto israélien, de ne pas permettre aux entreprises israéliennes de montrer leur contribution à la défense du monde. Et je pense que c'est un scandale et que ça doit être corrigé immédiatement par les organisateurs du Bourget.
La fermeture du pavillon israélien au salon du Bourget est aussi critiquée au sein de la classe politique française. L'eurodéputé Reconquête Sarah Knafo parle d'hypocrisie.
La France vend de l'armement à Israël. On se comporte en réalité comme certains pays arabes qui commercent avec Israël mais qui en ont honte parce qu'ils ont honte des réactions de leur rue arabe.
Au-delà de cette polémique, ce salon du Bourget reste le lieu incontournable des grandes commandes commerciales passées aux avionneurs et forcé de constater qu'Airbus rafle pour l'instant la mise. Une semaine après le crash d'un Boeing d'Air India, les responsables de la compagnie américaine ne sont même pas sur place. Aurélien Fleureau pour Europe 1.
Aujourd'hui, c'était profil bas côté Boeing. Pas d'annonce de commande alors qu'Airbus a pu démarrer fort dès ce matin. 40 appareils minimum pour le loueur Avilis, basé en Arabie Saoudite. Encore 40 à 220 de la part de la compagnie nationale polonaise LOT. Et une très grosse commande pour le géant de la gamme, l'A350, 25 avions par la très active compagnie Riyader. Jérôme Bouchard, spécialiste aéronautique au cabinet Oliver Wyman.
Le salon du Bourget sera teinté davantage Airbus que Boeing. Les premières prises de commandes le démontrent, que ce soit pour la 350 ou pour la 220. Riyader, c'est la compagnie aérienne qu'on voit aujourd'hui à l'ouverture de ce salon. Ils sont partout, on voit le mauve qui est leur couleur sur les stands, sur les avions. Ils font une énorme percée pour une compagnie qui se lance dans le Golfe arabique.
Alors ce n'est que le début, Boeing aura des annonces dans la semaine, mais pour l'instant, on peut le dire, il n'y a pas photo.
Et l'actualité économique, c'est aussi cette annonce surprise. Le patron de Renault, Luca De Meo, va quitter son poste de patron de Renault pour rejoindre le groupe de luxe Kering en grande difficulté. Annonce d'autant plus surprenante que Luca De Meo, en 5 ans, avait redressé la barre du constructeur automobile français Brieux-Bocher.
Luca De Meo quitte Renault avec le sentiment du devoir accompli, a-t-il écrit au conseil d'administration. C'est vrai que lors de son arrivée il y a 5 ans, le constructeur français était au creux de la vague, plombé par la crise Covid, l'affaire Carlos Ghosn et la querelle avec Nissan. Renault avait alors enregistré une perte record de 8 milliards d'euros. Luca De Meo a donc réussi un redressement spectaculaire. Pour Renault, c'est un coup de massue, d'autant plus que le patron italien était en pleine préparation de son futur plan stratégique. Mais selon Arnaud Aimé, spécialiste des transports chez SIA Partners, au-delà de l'annonce, c'est la destination qui surprend le plus, le groupe de luxe Kering.
Ce départ de Luca De Meo, c'est une vraie surprise, particulièrement pour aller dans le luxe, alors qu'il avait fait carrière tout le temps dans l'automobile, c'est ce qu'on appelle un car guy. Le déploiement de sa stratégie, il n'est pas encore terminé, cela dit, on imagine qu'il a voulu voir plus grand en testant un nouveau secteur et une autre grande entreprise.
Luca De Meo rejoint un groupe en grande difficulté, plombé par la dérive de la maison Gucci, mais l'annonce n'a pas tardé à se faire ressentir sur les marchés, une baisse de 7% pour Renault ce matin, tandis que Kering a bondi d'autant de points.
On va marquer une nouvelle pause dans ce journal avant de se retrouver pour l'actualité sportive. On verra qu'on a frôlé la catastrophe sur la New Caledonian Groupama Race. Le leader de la course, Rush Hour, a chaviré en pleine nuit au large de Pau, mais l'équipage est sain et sauf. A tout de suite.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
Du 26 mai au 19 juin, faites pousser vos envies. La jardinière sur pied Venezia est à 2990 francs seulement. Alors profitez-en, cultivez vos aromates et légumes. Avec Jardiland Nouvelle-Calédonie, vos économies commencent ici.
Jardiland.
Cultivez votre bien-être.
Attention, plus que quelques jours avant le tirage au sort du million en bons d'achat sur RRB. N'attendez pas le dernier moment pour vous inscrire. Envoyez maintenant RRB au 40-20. Il n'y a pas de liste préétablie. Le ou la gagnante décidera comment dépenser son million. Et puis, il y a toujours 100 000 francs à gagner en bons d'achat. Si vous êtes le 1500e SMS, pile sur le compteur. Alors n'hésitez plus. Envoyez maintenant RRB au 40-20. Chaque SMS compte pour le tirage du million le 4 juillet à 14h. 371 francs par SMS. Règlement du jeu disponible à l'accueil de la radio. Saisissez votre chance. Envoyez RRB au 40-20.
La fête de la musique est de retour à Nouméa ce samedi 21 juin. À partir de 16h30, tous les styles seront à la fête sur les 4 scènes de la place des Cocotiers. Et rendez-vous également à la cathédrale Saint-Joseph pour y retrouver des chorales. La ville de Nouméa vous attend ce samedi 21 juin pour célébrer la musique. Programmation complète sur nouméa.nc ou sur la page Facebook Nouméa Ma Ville.
Ville de Nouméa, partageons l'événement.
Elles sont là. Les Nike Air Force One viennent de débarquer chez Ozone Sport au prix de 12 500 francs. Oui, vous avez bien entendu, à seulement 12 500 francs. Retrouvez-nous au centre-ville de Nouméa. Ozone Sport, votre revendeur officiel Nike.
Tout le sport en trois lettres, RRB.
L'actualité sportive, on retrouve Jean-François Baudin.
Et la voilà la une, on approche des 50 heures de course maintenant pour la flotte de la New Caledonia Groupama Race. On est passé pas loin d'un drame cette nuit, Léo Fichou.
Oui, puisque dans la nuit, le navire Rush Hour, alors en tête de la course, a chaviré au large de Poum. Deux balises de détresse ont été activées peu après une heure. Le COS et la direction de course ont alors convoqué une cellule de crise pour venir en aide à l'équipage. C'est le catamaran Roamantz qui a été dérouté pour porter assistance à Rush Hour dans les heures qui ont suivi. Le COS a de son côté dépêché l'avion Le Guardian afin de faire une reconnaissance visuelle de la situation et adapter les moyens nécessaires. Tout l'équipage va bien, les marins sont actuellement pris en charge. Ce matin, l'équipage Blade Runner Néocéan a souffert d'un problème de safran et a donc dû déclarer forfait. De son côté, Too Far Out a également eu un problème de gouvernail et s'est rapproché de la côte est pour s'abriter. Il n'y a donc plus que 19 navires encore en course alors qu'ils étaient 23 au départ. Pour les autres, tout va bien. En tête, on retrouve désormais le monocoque néo-zélandais V5 devant le catamaran australien Roamantz, dérouté, je le rappelle, pour venir en aide à l'équipage du Rush Hour. Derrière eux, les Calédoniens se battent pour la troisième place. Jungens possède toujours quelques longueurs d'avance sur un trio qui est composé de Guilty, Speed Marine Epuro, BNC Mynet et Pulpito MLS FCD. On écoute Alexandre Ruiz, skipper de Guilty, Speed Marine Epuro.
On est passé devant Pulpito au waypoint numéro 1. On les a gardés en joue jusqu'au waypoint numéro 2. Et là, on est devant eux à 20 longueurs. C'est super, c'était très intense. On attaque la descente. Là, on est au près vitesse. Et puis on va bagarrer sur le prêt. La mer est comment? Elle est un peu démontée.
Elle est noire.
Mais ça va, ça va. Pour l'instant, on lèche le riff. C'est démonté, mais léger. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune forme de houle. Ça vient de la droite et de la gauche. Donc, il y a du vent.
Tous les bateaux sauf Boudicea et Too Far Out donc ont franchi la corne est au nord de Belep. Troisième point de passage obligatoire de cette New Caledonia Groupama Race. Après, je le rappelle, le Phare Amédé et le Cap Endua dans le Grand Sud.
La suite de l'actualité sportive avec de la natation et Maxime Grousset double la mise à Montpellier.
Le Calédonien a remporté ce matin l'épreuve reine des championnats de France, le 100 mètres nage libre. Il a signé en 47,50 le troisième meilleur temps de sa carrière. On notera encore une fois la très belle performance d'Ethan Duménil qui termine au pied du podium à la quatrième place en 48-76. Maxime Grousset réalise donc le doublé puisqu'il a été, je le rappelle, il a remporté samedi le 50 mètres papillon avec un record de France à la clé. Les championnats continuent jusqu'à jeudi avec 5 Calédoniens engagés. Maxime Grousset et Ethan Duménil donc, mais aussi Chrysander Cerda, John William Dabin et Alexandre Ganet.
Et puis on va terminer avec du tennis et la suite de la Billie Jean King Cup, anciennement Fed Cup en Malaisie.
L'équipe d'Océanie Pacifique composée de joueuses de Papouasie-Nouvelle-Guinée, des Samoa américaines et de Nouvelle-Calédonie affrontait l'Iran hier en ouverture de la compétition. Malgré une défaite de la Calédonienne Caroline Delaunay en simple, l'équipe d'Océanie-Pacifique s'est finalement imposée 2-1. Prochain rendez-vous pour Caroline Delaunay et ses coéquipières, ce sera face à l'Indonésie, l'Ouzbékistan et les Philippines lors des matchs de poule.
Merci Léo. Les dangers de la surexposition des écrans auprès des jeunes, c'est le thème du magazine Citoyen. À suivre dans un instant, on retrouvera Nicolas Legrand et ses invités.